Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 20 octobre 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie à 15h, du reggae avec Jano Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre bulletin météo que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
C'est pas mal en fait.
Ah, tu regardes ça toi?
Bah oui quoi, c'est très bien le petit journal.
Non mais lui il est mélanchoniste, ouais. On peut pas s'entendre, moi je suis plutôt...
C'est en même temps que Plus belle la vie.
Travailleur.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport.
Thomas, j'ai quand même un regret. Tu crois qu'on aurait dû faire, tu sais, les legal disclaimers, enfin les intertitres d'annonce. Attention, cette publicité risque de choquer les épileptiques. Ce programme ne convient pas aux moins de 12 ans, de 16 ans. Parce que là, quand même, il y a des odeurs qui font piquer les yeux et il y a des génériques qui font piquer les oreilles.
Oui, sauf que là, tu as parlé pendant le générique, là.
Oui, mais il y a eu un truc, là.
Oui, je sais, dans le pré-générique. Mais là, t'as parlé pendant le générique. Ouais.
Oui, mais je parlais du pré-générique.
Oui, oui. Ouais, ben, je sais pas, Plus belle la vie, c'est vrai que ça fait bizarre de l'entendre sur notre antenne, mais que dire, du sport est un grand
fan. À mon avis, c'est parce qu'il y avait beaucoup de vent là pendant deux jours, elle a fait du 120 km/h, ça a zappé tout seul. Bonjour, Duce.
Bonjour.
Donc, est-ce que tu peux nous résumer les épisodes de Plus belle la vue cette semaine?
Plus belle la vue. Plus belle la vue, tu connais Plus belle la vue, ami auditeur?
J'ai pas regardé.
Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 326 déjà. Nous sommes en belle et en charmante compagnie.
Ah bon?
Oui, à savoir nous-mêmes, mais surtout en compagnie de nos auditeurs.
Ah oui, d'accord.
Voilà, tu vois, ça c'est du populisme, un vrai truc bien démago.
Eh bien, en tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver, amis auditeurs, puisqu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, et la semaine d'avant, il n'y avait pas du sport, donc...
On rongeait notre frein quand même, hein, pour ce générique. Voilà, ceci dit, on va peut-être parler un petit peu de ce qui se passe, ce qui est prévu, hein,
l'agenda. L'agenda super booké, là.
L'agenda super booké. Aujourd'hui, il y a une journée, Monsieur Pabot. Alors, on devait recevoir justement Pierre Dru la semaine dernière, et on n'a pas fait l'émission finalement. C'est à Albiste, à la librairie Gaïa. Pierre Dru est en concert donc pour l'intégrale de Monsieur Pabot, ce qui était sorti dans le journal Ferraille, ancienne période, celle en papier journal, et la nouvelle, celle en format luxe, un peu manière géo. Et ce soir, il y aura XOR, concert variété franco-délirante en concert au bar jour de fête. On le salue puisqu'il fait partie lui aussi des gens qui tournent autour de la radio. Ce week-end, il y a la novella à Toulouse, mais ça vous en... Un peu petit
On sait jamais, hein.
On sait jamais. Enfin, à 6 pages, je fais une présentation demain. Elle est juste pas écrite encore. Du 26 au 28 octobre, la semaine prochaine, Quai des Bulles, c'est le festival BD de Saint-Malo. On en a déjà parlé. Normalement, Album Toulouse réouvre la semaine prochaine, revient à son ancien nom, BD Ciné. On en reparlera peut-être, je ne sais pas. Ensuite, je crois qu'on va avoir quelque chose comme 3 émissions en extérieur d'un coup.
Ah ouais, là ça va pas rigoler là.
Oh punaise, ça va être la course de fond. On commence avec du 13 au 17 novembre, le 14e festival Extrême Cinéma spécial zoophile.
Celui qui vomissait, il m'a fait peur.
Ce sera la Cinémathèque de Toulouse, donc autour des films avec des animaux bizarroïdes. Voilà qui va beaucoup faire plaisir, je pense, vu ce qu'il y a dans les fonds de la Cinémathèque et surtout les tréfonds. très mort, c'est très fonte. Enfin,
d'accord, voilà. D'accord.
J'aurais essayé au moins du 24, le 24 et 25 novembre. C'est un peu en dehors de la BD de cinéma et tout ça, mais on ne sait jamais, puisqu'il sera sûrement question des productions libres et libres, excusez-moi, et surtout des outils de production libre, puisque donc au Capitole du Libre. On parlera bien évidemment de Linux et tout ça, mais aussi des outils de création, c'est-à-dire notamment GIMP et tout le reste. Est-ce qu'on peut s'en servir ?
Oh là là, j'ai cru que tu m'avais dit au téléphone, c'était le Capitole du Livre. Alors, je me suis dit, ah, c'est sympa, on va pas encore parler livre, c'est encore du logiciel.
Ah bah justement, il y en a qui s'en servent, il y a des créatifs qui s'en servent. Il y aura justement, il sera question de Blender et tout ça. Ouais, Blender, ouais. Pas le robot. Ouais. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec ? Justement, bah.
Ouais.
Est-ce que tu ferais l'effort, je sais pas, de passer 2 heures dans l'atelier Blender pour voir effectivement si ça te plaît ou si ça te plaît pas,
oui.
Et d'en discuter après avec les mecs qui développent ce logiciel.
Allez.
Chiche. Et le 1er de décembre, le Toulouse Game Show, je crois même qu'on a des news assez délirantes sur le Toulouse Game Show.
Non,
l'équipe est sur les charbons ardents.
Pas de polémique, on a appris ce week-end, on a appris hier le désistement de Bernard Minet. Il ne sera pas
il est
occupé sur d'autres lieux au même moment.
Ah oui, c'est vrai qu'il tourne le Astérix 5. J'aurais tenté la blague.
Je ne comprends pas le rapport entre Bernard Minet et Astérix. Mais sinon, un nouvel invité a été annoncé, c'est Suda 51, l'auteur de le président de la firme qui produit des jeux vidéo qui s'appelle Grasshopper.
Qui est vu par les spécialistes vraiment comme un auteur de jeux vidéo.
Oui, comme un auteur qui fait des jeux très singuliers, dont Killer 7 ou Lollipop Chainsaw, des titres qui parleront aux fans de jeux vidéo. Voilà, pour ce Toulouse Game Show qui aura lieu début décembre.
Voilà, et pour en savoir plus, bien évidemment, rendez-vous sur le site, on mettra tous les liens et tout ça. Il y aura, j'espère, aussi beaucoup de bonheur lors de ces putain, 3 semaines de fou. Oh, on aura même pas le temps de se reposer, ça va être chaud.
Monsieur, je crois
que TGS, on va vraiment arriver, ça va être gurosant et...
Mais non, on se reposera en semaine, comme d'habitude.
Ouais, bon, ok, si tu veux. On va commencer sortie bande dessinée avec un changement de track sur le même CD, voilà, ça m'apprendra. Avec de la mangas, Booster Kill de Kenshiro Sakamoto. Les 2 premiers tomes sont sortis chez Kana le mois dernier. Et comment dire ? Imaginez un monde fantastique, un monde de pure fantasy, un monde comme on en découvre dans les RPG japonais sur console, qui remixe à leur sauce le médiéval fantastique avec un univers rock. Bon, ok, c'est un manga qui est taillé pour les ados, imaginé pour les ados, et on imagine déjà ce que pourrait donner une série animée et un jeu vidéo dérivé, voire plusieurs. On a une créativité, certes, finalement assez convenue, mais des fois, des petites surprises rafraîchissantes qui vous happent. Vous savez exactement ce qui va se passer, comment la mécanique va fonctionner, mais l'univers graphique, voire l'univers tout court, ben, c'est un peu votre plaisir de 15 minutes dans le bus, ce qui vous transporte dans quelque chose de barré. Enfin, je comprends tout à fait ceux qui aiment lire Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh Hakusho, Naruto et One Piece. Bah Booster Kill, c'est exactement ça. C'est là-dedans. Voilà, tout plein. Kill, un garçon qui K2L, un garçon qui a une puissance physique impressionnante, cherche avec hargne Shiva, un dompteur de monstres disparu depuis 2 ans. Kill s'associe avec Lavi, la copine du dit dompteur de monstres, elle aussi dompteuse de monstres. Oui, enfin c'est bien dompteuse, j'espère. Le féminin dompteur. Mais attention, des monstres que l'on dompte grâce à la guitare électrique. Oui, parce que imaginez Sacha dans Pokémon qui joue du AC/DC à la guitare électrique pour donner plus de puissance électrique à Pikachu. Oui, je l'ai cherché un petit peu ce matin, voilà. C'est le trip complètement allumé de cette série. Sauf que Kill n'est humain que d'apparence. Mais en fait, c'est un monstre, un dragon-singe dompté par Shiva. Et que dans le périple dangereux, dans ces contrées peuplées de monstres... Je vous ai dit qu'il y avait des monstres.
Oui, oui.
qu'il peut retrouver la puissance formidable d'un de ses bras de dragon singe quand la vie joue à la guitare un extrait de la bande originale du film King Kong sur la version de 1976 qui a été partitionnée par John Barry.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là?
Ben justement, c'est un truc complètement barré, mais qui est relativement fun. Heureusement, donc, pour traverser cette contrée, Mipi, le monstre familier de la vie, et Blue, un guerrier magicien bi-classé, ne seront pas trop pour résoudre des mystères et retrouver les quatre reliques sacrées. Ouais, bon, il y a une histoire d'artefacts à retrouver, car Shiva est parti en voyage longue durée à leur recherche. Nos héros sont donc partis en vadrouille dans un univers où heureusement il est facile de trouver des trésors. Il suffit de chercher des très très gros monstres, classe S minimum, vous voyez le trip, hein. Gros monstre, gros trésor derrière forcément, c'est le principe de tout jeu de rôle sur plateau. Papier, stylo bien sûr. Et la guilde des aventuriers nous donne des missions d'intérim en fonction de vos points d'expérience. Oui, forcément. Oui, au cas où des personnages avanceraient trop vite dans l'intrigue, on va vite y mettre des quêtes secondaires pour agrandir la durée de vie de la série. Ok, c'est archi convenu, je suis d'accord avec toi, c'est... Et puis surtout, c'est un dessin qui est hyper anguleux et tout ça. Mais franchement, ben, je me suis plongé dedans, et finalement, ouais, je me suis marré. J'ai trouvé ça assez fun et rigolo, et c'est le petit truc, ouais, tu lis un chapitre dans le bus pour t'éclater, parce que voilà, c'est complètement insouciant, c'est fun, et c'est déliant, et puis cette idée de guitare électrique pour augmenter la puissance de monstres dans un univers Medfan, ouais, finalement, oui, j'ai trouvé ça sympatoche et marrant, et puis ça fait du bien, voilà, dans ce monde gris. Booster Kill, tome 1 et 2, c'est traduit en France chez Kana, de Kenshiro Sakamoto. Et évidemment, je vous laisse imaginer, ce serait une série au très long cours. Donc, enfin, en tout cas, j'espère pour l'éditeur.
Enfin, en tout cas, on voit que l'auteur s'est bien amusé sur les personnages. Il y a sur le character design, il y a que des monstres de partout. Il y a, j'ai
des
vu
personnages
même...
qu'il avait déjà utilisés dans 5 ans auparavant dans une BD en fait dans un magazine en fait qui est destiné plutôt à des écoles primaires, collégiens. Il avait la même intrigue, mais il les avait fait en enfant. Et là, c'est la première fois qu'il les dessine, mais en adulte.
Oui, mais ben là, par exemple, il y a des personnages où il remplace les deux yeux par des bouches et la bouche par un œil. Donc le mec,
c'est un monstre.
Voit par un... Ouais, c'est un monstre.
Ah, il n'y a pas que ça, il y a aussi le double serpent.
Il s'appelle Toe Turn. Ouais.
Il y a aussi le double serpent dans le tome 2. Tu dis, mais attends, par où il fait caca? Et là, t'as les autres qui font. Enfin, bon, c'est assez rigolo quoi.
Ouais. Bon, ça a l'air vachement chargé graphiquement, mais ça a l'air intéressant.
C'est un peu
quand
le
même.
Style graphique, c'est clair. Ouais. Hein, c'est... En tout cas, voilà, c'est le moment rigolo. Enfin, je sais pas, du sport qui s'est barré pendant la chronique pour ramener des gâteaux et du café. Que si toi, dans Pokémon, tu verrais Sacha dégainer une guitare électrique pour jouer du AC/DC pour booster la puissance de Pikachu, ça serait marrant, non?
Je crois qu'il t'écoute pas là.
Ouais, je crois qu'il est en plein Batman, d'accord. Bon. Voilà, la chronique de tout à l'heure de du sport est actuellement en cours d'écriture. Merci de patienter 5 minutes. Je dois vous avouer, je vais faire revenir en arrière le disque parce que je suis en train de bouffer des loukoums, un autre coco, avec un goût de nougat, du sport, du... Ah, pardon,
c'est pas bon, du sport
est fait non, en non, train mais de... du sport qui est déguisé aujourd'hui en Montebourg avec...
La marinière, mais il était en train de nous expliquer en off que les loukoums à la noix de coco, c'était pas les vrais loukoums. Et donc tu disais que tes fournisseurs ne savaient pas choisir.
Non, non, si, si, mais enfin bon, moi je préfère ceux sans noix de coco.
Ouais, mais ils sont bons quand même, hein, noix de coco.
Ouais, bah oui, oui, la base est la même.
Et juste un clin d'œil à Olivier, mais surtout à Enflammé, qui était la spécialiste culinaire de l'émission. Maintenant, ils font leur émission, mais c'est le jeudi, dans le créneau 17-19, donc d'actualité, et c'est en général en extérieur, et c'est un sacré bordel. T'imagines, t'as une équipe de fous furieux qui débarque chez toi, bon, tu les attends, mais ils vont faire l'émission en direct chez toi, et en même temps, ils vont cuisiner chez toi, pendant le direct, et ça tourne à tout et n'importe quoi. Mais c'est assez fun, ceci dit. Enfin, quoi que j'ai pas écouté celui de jeudi dernier. Tout à fait autre chose, on revient vers la bande dessinée franco-belge, française, voire même, avec Frédéric Chabot et Julien Mounier, qui sont les auteurs de En attendant l'aube. Le premier tome s'appelle Lumière de la ville et est sorti dans la collection Massala aux éditions Poivre et Sel. Et là, je le regrette et je le confesse, c'était en mai dernier. Donc j'ai vraiment pris du retard, mais... Mais là aussi, c'est le grand moment de bonheur. Tu vois, autant je parlais tout à l'heure de manga, un truc qui te détend et tout ça. Et là, c'est un bouquin, tu l'ouvres et c'est du plaisir. Voilà. Tom est un étudiant qui est dans son petit studio avec vue sur la vieille ville, cette mer de tuiles rouges qui se jette là-bas, très loin dans l'immense horizon de cette vaste mégapole. Après les cours, après les tracas, il aime s'en griller une à la fenêtre et à contempler ses toits. Une immense clétude qui lui rappelle sa campagne, lui qui est arrivé dans cette grande métropole l'année dernière et qui s'est senti perdu devant autant de promiscuité anonyme et parfois hostile. Et un soir à sa fenêtre, eh ben, il y aperçoit cette fille, la fille, une inconnue qui marche sur les toits et qui le fixe. Sa journée du lendemain sera obsédée par cette apparition. Qui est-elle? Pourquoi marche-t-elle sur les toits? N'a-t-elle point peur de tomber? Le soir, il la revit. Elle n'était pas un rêve. Elle s'approcha du bord du toit en face et lui fit signe de venir. Tom fait fi de sa peur du vide, passe sa jambe par-dessus la rambarde, met le pied sur le toit de la maison voisine, progresse avec difficulté, découvre par là même ses voisins passant à côté de leur fenêtre. Et elle le fait aller de toit en toit et finalement elle s'assied. Tom s'approche de la fille, s'assied à côté d'elle, et Marine, c'est son prénom, lui dit que la prêtresse lui a prédit sa venue. C'est un autre monde que va découvrir Tom, un plan d'existence totalement insoupçonné, celui de la ville nocturne et de sa faune, des toits qui s'y prélassent, tels des chats. La technique d'exécution est en carte à gratter. Alors pour ceux qui connaissent pas, la carte à gratter, c'est un carton blanc qu'on a enduit d'une peinture noire ou de noir de fumée et qu'on gratte avec une pointe pour faire des traits blancs. C'est plutôt original et ça donne une matière incroyable au livre. Puisque tout est hachuré. Cette méthode et l'absence de grands aplats blancs convient parfaitement finalement à l'ambiance nocturne de l'histoire. On a un livre contemplatif de déambulation urbaine, pas d'éléments fantastiques visibles, juste le plaisir des rencontres impromptues. En soi, l'histoire est une invitation à découvrir la ville et ses autres habitants. Cela dit, la production de l'émission nie toute responsabilité si jamais en marchant sur les toits, vous faites une mauvaise chute. Thomas. Toi, t'es fasciné, quoi.
Oui, par la technique. Bon, c'est une vieille ruse de graphiste de travailler à partir d'un fond sombre et d'ensuite éclaircir.
On pense surtout à Thomas Hoth qui le fait beaucoup.
Voilà, donc si vous êtes fan, vous aussi, enfin, en général d'artbook, d'illustrateur et tout, il y a toujours ils vous disent toujours. Enfin, pour ceux qui sont graphistes ou dessinateurs eux-mêmes ou même débutants ou confirmés, c'est qu'il faut, parfois essayer de travailler à partir d'un fond déjà coloré. Et comme ça permet d'avoir une ambiance beaucoup plus facile. Parce que si vous partez du blanc, il va falloir faire beaucoup plus de travail pour obtenir quelque chose de foncé. Et justement, travailler en négatif, c'est pas mal aussi. Et justement, ce côté hachuré, alors déjà sur noir sur blanc, ça donne des effets de matière. Mais là, c'est vrai que travailler en négatif, ça donne, comme tu l'as dit si bien, un aspect poétique qui est vraiment sympa. En plus, on voit que...
C'est vrai que la technique de la carte à gratter ou du fond noir, on s'en sert plutôt pour les trucs oppressants. Et là,
Oui, et puis en plus, là, c'est.
Ah, ça va bien.
On voit que le dessinateur s'est bien amusé à dessiner la ville vue de haut. D'abord, ça commence par une espèce de coucher de soleil. Ensuite, on a la même ville, mais en nocturne. Il a fallu qu'il la regratte aussi parce qu'il y a d'autres couleurs et on voit que c'est pas forcément les mêmes maisons non plus. Donc, on voit qu'il y a du boulot quand même. Hein. Non, c'est.
un grand, grand, grand moment. Enfin, en tout cas, moi, franchement, quand je l'ai lu, voilà, c'était... je me suis dit, vers où il part ? Tout ça, surtout cette planche muette au début. Et puis, ça fait du bien. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement agréable à lire pour la journée. Alors, vous attendez absolument pas à quoi que ce soit de fantastique. Non, c'est justement ça qui est agréable. Il y a vraiment de la rencontre pure. Et puis, point barre. Du sport, il est en train de lire Batman Saga. Mais est-ce que tu as le temps de la chroniquer, là ?
Oui, là, tout de suite, oui.
Tu peux pas mettre une coupure musicale, là, en attendant ?
D'accord, ok.
Quitte à en remettre une juste avant fin de la BD,
oui,
quoi.
Une petite respiration, quoi. Ouais.
Histoire de finir les locums et le café.
Voilà, tranquille.
Alors, dans ce cas-là, c'est en référence, en fait, à Booster Kill. Je suis tombé dans les découvertes du printemps de Bourges 2012 sur un disque qui m'a fait hurler de rire, c'est Primate. Et le morceau s'appelle « Qui veut écouter mon disque ? » Écoutez bien, vous allez vous pisser dessus de rire, c'est énorme. Et c'est quand tu veux, Coco. Et voilà, alors c'est le problème quand on travaille sur un...
Les aléas du direct.
Voilà, c'est quand tu veux, hop.
Non, de la non-préparation.
Ouais, allô ?
Salut Fred, ça va ?
Ouais, ça va, enfin, je te dis, ça va, à part mon disque qui me saoule, mais bon, il bouge pas de la maison, il laisse traîner ses pochettes partout, il laisse traîner ses boîtiers, moi je vais pas lui laver ses pochettes jusqu'à 35 ans, hein. Ça fait une semaine qu'il doit faire ses papiers SACEM, tu crois qu'il le ferait ? Non, monsieur préfère squatter la PS3, là je m'inquiète, hein. C'est pas comme ça qu'il va se trouver une petite platine. Hein.
Ah, laisse-lui un peu de temps.
Ouais, je sais, t'as raison, mais bon, en ce moment, je me demande quand même... Qui veut écouter mon disque ?
Qui veut écouter mon disque ?
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire.
Qui veut épouser mon disque ?
Qui veut épouser mon disque ?
Ne laissez pas finir sa vie célibataire.
Qui veut écouter mon disque ?
Qui veut écouter mon disque ?
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire.
Qui veut épouser mon disque ?
Qui veut épouser mon disque ?
Ne laissez pas finir sa vie célibataire. J'ai fait tout ce que je peux pour lui. L'ai inscrit sur MIDJ, créé son profil pour le rendre plus ludique. Sachant ça, il s'est énervé, mon album est pudique. Mais je mets les chances de ce côté pour lui trouver un public. Ça donne rien, pourtant je fais mon maximum, multipliant les appels sur adoptincd.com. Mais personne ne veut de lui, alors il sombre dans l'alcool à force de tourner en rond comme un poisson dans son aquarium. J'ai décidé de rédiger son CV. Il s'est avéré qu'il serait plus dur que je pensais de l'insérer. Il manque d'expérience, il a jamais rien achevé, mis à part les imitations foireuses de ses rappeurs préférés. J'ai donc menti, j'ai embelli sa carrière d'un apprenti. C'est devenu un album avec un itinéraire, une sortie internationale deux mois en arrière. Fallait bien mentir un peu pour franchir les barrières. Malgré tout le temps que j'ai laissé sur mon ordinateur et les coups de fil passés à des milliers de programmateurs, c'est échec sur échec. Il est temps que je comprenne que la musique de mon disque restera toujours au niveau amateur.
Qui veut écouter mon disque ?
Qui veut écouter mon disque ?
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire.
Qui veut épouser mon disque ?
Qui veut épouser mon disque ?
Ne laissez pas finir sa vie célibataire.
Qui veut écouter mon disque ?
Qui veut écouter mon disque ?
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire.
Qui veut épouser mon disque ?
Qui veut épouser mon disque ?
Ne laissez pas finir sa vie célibataire.
Mon disque a du mal à couper le cordon ombilical. Et j'en peux plus, je veux juste trouver la belle industrie musicale. Et je gratte, il soit le domicile familial. Et je suis pas loin d'un tentative d'homicide ou des claques en rafale si tu l'écoutes parler. Mon disque est un rappeur, en vérité, mon disque est amateur. Mon disque est un gratteur, mon disque a peur du succès, du coup il est célibataire. Pourtant il fait de son mieux, mais il est mauvais en affaires. Depuis peu, il a perdu confiance, il s'est laissé abattre. Le descotché du canapé, je te jure, c'est pas de la tarte. Tous les jours, c'est de plus en plus technique. Stratégique, à force de le voir assis, j'ai l'impression qu'il est devenu paraplégique. Pourtant, je lui explique qu'il lui faut un déclic, mais il est comme un tremblement de terre, il a toujours deux, trois répliques. Et il se fout de mes critiques, ça le fait rire quand je lui dis qu'il est pathétique et qu'il n'a pas d'avenir en tant que père. Je lui demande d'assurer sa discographie, où je serais fier de voir mon petit fils sur les photos d'échographie. Le plus heureux des papis tenant la chair de mon disque, parce qu'il est clair que je l'aime, après tout, c'est mon disque.
Qui veut écouter mon disque ?
Non, ça va, merci.
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire.
Qui veut écouter mon disque ?
T'as vu sa gueule ?
Le laissez pas finir sa vie célibataire.
Qui veut écouter mon disque ?
Ok, mais je l'achèterai pas.
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire. Qui veut épouser mon disque ?
Ça m'intéresse pas.
Le laissez pas finir sa vie célibataire. Tu vas l'écouter mon disque.
Tu vas l'écouter mon disque.
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire.
Tu vas l'épouser mon disque.
Tu vas l'épouser mon disque.
Le laissez pas finir sa vie célibataire.
Tu vas l'écouter mon disque.
Tu vas l'écouter mon disque.
Il est pas cher, je te garantis que c'est une affaire.
Tu vas l'épouser mon disque.
Tu vas l'épouser mon disque.
Y a pas moyen qu'il finisse célibataire.
Non, parce que Sacha, tu vois, qui prend sa guitare électrique pour booster.
Non, mais Xavier, tu saoules, là. Non, ça va. Et la blague, c'est bon, on l'a entendu. Sacha, pendant la chronique. Et puis Sacha, imaginez Sacha de Bourpalette qui. Et puis après, on la rediffuse. Et puis du sport, il a pris le café, donc il n'a pas écouté. Sacha, ma blague, Sacha. Alors, en plus, vous n'avez pas Xavier, vous, en préparation d'émission au téléphone. J'ai une super blague, c'est Sacha qui joue de la guitare électrique. 5 fois, je l'ai écouté, cette putain de blague, dans la matinée.
Je peux désannoncer le morceau ?
Oui, vas-y, pardon.
Qui veut écouter mon disque de Primate, découverte du printemps de Bourges 2012 de l'année dernière. Cette année.
2012, cette année.
Voilà.
Oui. Encore.
Encore. Ils viennent de Franche-Comté, si vous voulez savoir.
Ah.
Oui. Duce.
Oui.
The Caped Crusade.
Ouais, Batman Saga.
The Caped Crusade.
Ouais.
C'est pour foutre la honte à mes copains de Paris Web.
Ouais,
qui...
Des fois j'essaye, mais j'arrive pas à faire comme ça, quoi. Mais pourtant, des fois j'essaye.
Ouais, toi t'as des brutes, Lancaster, des courbes et tout, mais lui, The Caped Crusade.
Voilà, si c'est la première fois que vous écoutez le supplément week-end, premier juré, un de ces quatre, on mettra en ligne un manuel d'écoute de cette émission.
Voilà. Donc là, il s'agit du numéro 5 de Batman Saga. Alors, comme d'habitude, on suit encore les aventures de Batman dans Face à la Cour. Et là, c'est l'histoire quand même qui est la plus intéressante, au propre comme au figuré, retournante, renversante, comme vous voulez, vous allez pouvoir le. En constater par vous-même. Il y a également bien sûr le Batman Détective Comics, donc ça c'est l'histoire du taxidermiste avec un truc un petit peu trash, on va dire.
Ouais.
Le Batman.
Ouais,
tu veux dire qu'il prend le pingouin, il le vide et il le remplace par de la paille?
Ouais, mais non, mais tu crois pas si bien dire d'ailleurs.
Oh merde.
Ça c'est par Tony Daniel, donc, et là Tony Daniel, il en fait une partie, il fait plus que le scénario. Tony Daniel, il a l'habitude de faire les deux, quoi, mais bon, de temps en temps, pour des questions de délai. Bah, il délègue quand même le dessin à d'autres, mais on n'est pas perdant pour autant. Il y a également le Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason, qui est aussi vachement intéressant parce que c'est vraiment l'analyse des rapports entre le père-fils.
Lui, c'est même s'il n'est pas biologique, c'est le bon fils par rapport à Damien.
Ça. Et là, ça se passe pas très bien, on va dire.
Ah.
Pas bien du tout. Et Batgirl, bien sûr, scénarisé par Gail Simone, donc une nana. C'est pas mal, c'est sympa. Le cliffhanger du numéro 4, c'était Barbara Gordon qui ouvre la porte de chez elle, où elle est en coloc avec une nana et tout, et qui c'est qui débarque? Bonjour, c'est ta maman. Bon, oui. Ok, d'accord. Ouais, il y a un truc.
Céline.
Par contre, là, c'est quand même dans la.
Mais non, c'est Batgirl, c'est pas Catwoman.
C'est quand même la première histoire là qui graphiquement fait vraiment très très fort. Quand je disais renversante, c'est-à-dire que quand tu commences à lire, t'as l'habitude de lire normalement, quoi, comme ça. Mais il arrive que de temps en temps, les scénaristes se disent c'est un peu plus facile de lire de haut en bas de cette façon-là.
Ah oui.
Tu dis tu commences à t'y habituer, tu dis tranquille, c'est cool, pas de problème.
Et c'est à peine flag, tu vois, dans les transports en commun.
Ouais, ça va, pour l'instant, on suit, quoi. Mais là, d'un seul coup, t'es obligé de retourner le truc à l'envers.
Ah oui, tu retournes la BD, ouais, d'accord.
Et donc, tu retournes.
Et ça s'explique scénaristiquement ?
Oui.
D'accord.
Oui. Oh, ça doit être
tu
pas mal, alors.
Enfin, tu vois, quoi. Et ça s'achève par blam.
C'est marrant parce que moi, ça me fait penser à toutes ces BD expérimentales du début des années 90 dans les comics.
J'allais dire, ça a déjà été fait, mais plus pour des trucs expérimentaux. Dans la BD, je savais que t'allais me sortir ça de toute façon.
Kabuki.
Je t'en remercie d'ailleurs.
Je pensais à Kabuki en fait, où justement au bout d'un moment tu dois tourner le bouquin dans tous les sens.
Et là, le truc c'est que ça se passe à un moment bien précis où Batman est prisonnier de l'ergo, donc le tueur à la solde de la cour des hiboux. Pour ceux qui n'ont pas lu, ils vont rien comprendre, mais c'est pas grave.
Oui, c'est un peu complexe.
Et là, il est enfermé dans ce truc là et l'ergo en fait cherche à le faire devenir complètement chèvre. Et donc, on suit les déambulations mentales de Bruce Wayne, alias Batman, dans des labyrinthes.
Il lui a fait manger du pain ?
Parce qu'en fait, au départ, Bruce Wayne découvre que la cour des hiboux, c'est pas vraiment qu'une cantine pour enfants, mais c'est également quelque chose qui a été créé, une espèce de société secrète, et que un de ses ancêtres, qui a également contribué à la construction, à l'élaboration l'amélioration de la ville de Gotham, eh bien, avait fait construire des appartements secrets, des endroits secrets à chaque 13e étage des buildings qu'il avait construit à l'époque.
Tiens, ça me rappelle dans la peau de
John. Se demande d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, et bon, bah ok, il se fait prendre au piège.
C'est une légende. C'est pas une légende. Il y a plein d'immeubles à New York, pas tous, mais il y a plein d'immeubles où le 13e étage n'existe pas.
Non, il n'existe pas parce que bon, bah c'est une superstition, quoi, c'est tout.
Oui, bah il existe, mais il s'appelle le 14e.
Quoi. Oui, oui.
Il fait une demi-hauteur.
Oui, oui, ou les étages et demi, enfin le demi-étage, oui. Dans...
Ok, donc, alors scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo, bon, bah, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon, quoi. Je vais pas dire qu'il y a une des histoires qui est meilleure que l'autre, parce qu'elles sont quand même assez différentes, et c'est ça qui est très intéressant dans Batman Saga, c'est que tu bouffes pas du Batman du début jusqu'à la fin, quoi. C'est quand même très très varié. Et. C'est plus ou moins bon enfant selon les séries, ça va. Bon, bah, il y en a qui sont. Celle de Batman, la première, hein, est vraiment très très grave. Detective Comics également, c'est aussi du lourd, du bien sanguinolent, on va dire. Après, bien, on va dire, Batman et Robin, ok, quoi, c'est un petit peu plus introspectif, on va dire. Mais ça va s'énerver, je le pressens d'ailleurs. Et dans Batgirl, bon, on rigole à mon coup, c'est pas mal, c'est sympathique. Bref, voilà, Batman Saga, c'est numéro 5, numéro d'octobre, en vente chez tous les. Les bons disquaires.
Parce qu'il me voit chercher en me disant bon, on va mettre une interruption musicale supplémentaire, donc je cherche un morceau et je me suis arrêté sur Natasha Atlas remixé par Talvin Singh Dudon, extrait de la compilation Quillage, qui est extrait des CAF de la radio, voilà. Du sport adore tout ce qui est
Bollywood,
et ça, la pochette bien Bollywood nous a fait marrer, donc
mais c'est bien ça, c'est bien, ça relance tout ce discours que tu avais à un moment donné où chaque interruption musicale doit être raccord avec les chroniques. Mais c'est un vieux sujet récurrent, on va pas polémiquer, pas de polémique.
Radio FMR 12h32. Natasha Atlas Dudine, remixé par Talvin Sig. Moi, ce que j'aime, c'est les deux en un. Tu vois, moi, je lis des bouquins et tout ça, et j'écris mes chroniques en catastrophe le lendemain et tout ça, pour que ça soit prêt. Thomas, non. Il vous fait une chronique, et la chronique du film qu'il a chroniqué la semaine suivante. Comme ça, hop, il fait en suivant, donc il est fait version longue.
Et voilà, puisqu'il y a 15 jours, nous avions diffusé l'interview de Michel Oslo, le réalisateur de Kirikou. Entre-temps, j'ai vu le film et donc aujourd'hui, je vous chronique le film.
Nickel.
Voilà. Donc, si vous voulez vous passer l'interview de Michel Oslo, allez dans nos archives pour écouter en podcast la précédente émission.
Sur supermanweekend.fr.
Tout à fait, voilà. Donc, il s'agit du troisième film d'animation Kirikou qui s'appelle Kirikou et les hommes et les femmes. Réalisé par Michel Oslo et co-écrit avec Bénédicte Gallu qui avait déjà co-réalisé le deuxième Kirikou qui était les Kirikou et les bêtes sauvages et également co-écrit avec Suzy Morgenstern et Sandrine Maubourguet. Voilà. Alors le minuscule garçon Kirikou qui est né dans un village d'Afrique noire continue de vivre tranquillement dans la case de sa mère au milieu des enfants et des femmes faisant toujours preuve de ruse et d'intelligence pour contrer les plans de la sorcière Karaba. Et ses fétiches, des créatures automates qui étaient autrefois les hommes du village. Ça explique pourquoi il n'y a plus d'hommes dans le village, il n'y a que des femmes, des enfants, voilà. Enfin, il y en a un homme vieux et un homme jeune qui est l'oncle de Kirikou et donc Karaba essaie de, par tous les moyens de s'approprier le seul homme jeune et robuste qui lui manque.
Oui.
Alors, à l'instar du précédent opus, donc le deuxième, il s'agit de plusieurs histoires courtes. Par rapport au premier qui était vraiment une histoire longue avec un début, une fin, on voyait le début, l'enfance, la naissance de Kirikou et puis donc cette fin où Kirikou se transformait en homme adulte et qui finissait avec la sorcière Karaba qui avait il l'avait délivré d'une malédiction qui la rendait méchante. Donc Oslo s'est dit Kirikou, si je fais des suites, de toute façon personne ne tout le monde voudra voir le petit Kirikou qui est mignon mais pas le grand puisque c'est la fin.
Alors c'est vachement marrant parce que moi mes enfants ont vu la bande annonce donc du film. Ils m'ont dit je sais pas, enfin le plus grand m'a dit je comprends pas quoi, pourtant il était vachement plus grand dans le précédent. On le voit de nouveau petit, je vois pas l'intérêt.
Pas mal.
Eh oui.
Pas mal. En fait, on devrait envoyer les gamins du sport interviewer Michel Oslo la prochaine.
Ouais, c'est trop naze.
L'attaché de presse va nous en vouloir à mort. Ce sera juste dans la mer, puisqu'il était venu pour le Cartoon Forum à Toulouse en septembre.
Oui, c'est vrai.
Alors, là, nous avons 5 histoires courtes. Donc
il y avait également Marc Dupont-Abbisse qui était présent à Toulouse.
Oui, tout à fait.
Oui, le producteur des...
Ah bah ouais.
Voilà. Alors, donc toujours de la magie. C'est toujours la même chose. En termes de mise en scène, c'est toujours la même chose chez Oslo. C'est-à-dire, il y a toujours ce qu'on aime et ce que d'autres détestent. C'est-à-dire, simplicité maladive de la mise en scène. Les personnages, pour schématiser, sont toujours cadrés soit de face, soit de profil. Mouvement caméra horizontaux. Il s'est pas chier. Et après,
Il nous a expliqué, c'est pas qu'une question d'économie, mais c'est super intéressant. Si vous avez la flemme d'écouter l'émission, c'est aussi sur ActuaBD, voilà.
J'allais y venir, merci.
Désolé.
Donc simplicité de la mise en scène, et donc il nous expliquait que c'était pour toucher aux choses les plus essentielles, pour être le plus rapidement compréhensible et au plus grand nombre. Donc c'est vrai que quand on voit des images, surtout la signature de Oslo également, ces décors qui sont surchargés, des couleurs de partout, et tu te dis toujours, en image fixe, tu te dis, alors déjà... comment ça va faire après en film, j'ai pas envie de voir ça, moi c'est plutôt l'âge de glace, des trucs comme ça, tu vois, t'as l'impression d'en avoir pour ton argent, là c'est un film à l'ancienne, il y a des films à l'ancienne qui font rêver, là c'est tout plat, c'est un peu pauvre on va dire, alors déjà il y a ça. Ensuite tu te dis tiens ça a l'air toujours pareil parce que bon le Kirikou il peut en faire 150 comme ça, voilà, sauf qu'après quand tu vois le film tu oublies tout ça. Non seulement parce que les décors surchargés ils s'intègrent parfaitement par rapport aux personnages, ils nous ont aussi fait une leçon de mise en scène dans l'interview, et également c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que cette simplicité dans les contes, dans la narration, dans une morale qui est jamais trop assénée, avec beaucoup de lourdeur, mais c'est toujours en demi-teinte, peuvent y voir plein de choses différentes selon que tu es grand, si tu es un enfant, etc. L'enfant va peut-être s'attarder sur le fait que Kirikou il va super vite, ou il va rencontrer une petite bébête assez mignonne. Les grands vont plutôt voir la métaphore de la bête, ils vont plutôt voir les conflits avec Araba, les conflits sociaux, ethniques, même sexuels aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture malgré une simplicité de la mise en scène qui est vraiment très très forte. Donc dans les cours d'histoire, ne manquait, enfin moi ma préférée c'était la dernière, puisque là on touche à quelque chose qui est essentiel dans la mise en scène dans le cinéma. C'est un conte qui est orchestré autour de la musique, puisque c'est une gigantesque tempête de sable qui arrive pour balayer, enfin qui empêche les villageois de vraiment vaquer à leurs occupations normales dans le village. Et il y a deux bébés qui pleurent, qui sont saoulés par le sable. Karaba est saoulé aussi par le sable, et Kirikou essaie par tous les moyens de calmer les bébés, et donc il essaye d'improviser une flûte. Et on voit progressivement se mettre en place un don pour la musique, comment sont faites les musiques. Et à la fin, ça finit où tout le monde joue de la musique, et même Karaba s'y met avec un chant qui est venu d'on ne sait trop où, et ça te hérisse le poil, quoi. Tu vois la scène. Ça a fonctionné avec Madame, ça a fonctionné avec le petit. Moi, j'ai particulièrement apprécié aussi. Allez-y, vraiment, c'est quelque chose qui est indescriptible, c'est quelque chose qui est très très simple. Tu vas pas être transporté, tu vas pas avoir la chair de poule parce que tu vas voir des paysages magnifiques et tout, mais ça vient surtout d'une simplicité de décor et de couleurs qui est l'essence même de la narration et de la mise en image, quel que soit l'art, c'est-à-dire la bande dessinée, le film illustration, les enluminures. Je pense que là, il touche à quelque chose qui est juste parfait. Alors là, c'est la première fois dans les Kirikou qui s'essaye à la 3D, Michel Oslo, puisqu'il avait déjà utilisé la 3D pour le film Azuri Asmar, qui était une 3D particulière aussi, puisque c'était quand même des dégradés très, très voyants et tout. Encore une fois, ça a passé, selon moi, pas du tout en livre, mais quand tu le vois en image animée, tu dis d'accord, c'est parfait. Là, c'est pareil, c'est-à-dire ça choque un peu au début parce qu'ils ont choisi une 3D privilégiant les aplats de couleurs pour coller bien avec l'esprit graphique des premiers Kirikou. Et c'est vrai que à un moment donné, tu oublies complètement et tu te dis que Oslo, il est aussi fort en silhouette papier découpé, en style graphique en aplats de Kirikou et en 3D. Donc les Kirikou, moi personnellement je suis fan, et surtout, alors là j'ai fait passer à Du Sport par exemple qui est en train de feuilleter le livre inspiré du film. Donc il faut savoir que Oslo a lui-même écrit les adaptations de ses films, c'est édité chez Milan Jeunesse. Donc si vous voulez raconter des petites histoires à vos enfants, ces livres sont assez bien faits, sont des beaux objets, pas trop cher à mon goût, donc voilà. C'est en plus, c'est soit vous trouvez les livres avec chaque court segment, les courts métrages qui sont dans les films, ils sont regroupés par film, soit vous les avez si vous voulez mettre un peu moins d'argent dedans, vous achetez les livres à l'unité, c'est-à-dire pour chaque petite histoire il y a un bouquin qui est sorti. Voilà, donc c'est toujours
les petits bouquins à l'unité, c'est surtout plus pratique pour les gamins à manipuler.
Ça dépend aussi, puisque si c'est les parents qui lisent et qui portent le livre, bah oui. Les enfants parfois sont habitués aussi à ce qu'on lise des livres lourds.
Il y a pas mal de textes quand même. Quoi.
Ah oui, tu tiens avec une histoire facilement de la soirée, pour endormir l'enfant, c'est trop. Voilà, donc Michel Oslo, justement, vous pouvez retrouver l'interview donc en podcast sur supplementweekend.fr ou également sur le site de notre partenaire actuabd.com qui est retranscrite depuis cette semaine. Voilà, donc Kirikou, les hommes et les femmes de Michel Oslo, qui est le troisième film de la trilogie Kirikou. A priori, ce serait le dernier, mais bon, comme il nous l'a dit dans l'interview, lui, plus on lui dit « tu nous as fait du bien, recommence », donc lui, finalement, à chaque Kirikou, il dit que c'est le dernier, mais il n'est pas à l'abri d'en faire un autre, donc pour l'instant, il n'y en a que trois de prévus. Le premier, c'était Kirikou et la sorcière, le deuxième était Kirikou et les bêtes sauvages, et donc voici Kirikou et les hommes et les femmes, qui est toujours actuellement en salle.
Et comme disait le sage, jamais dire plus jamais.
Le sage étant la femme de Sean Connery. Mais on en parlera prochainement puisqu'on va peut-être faire un dossier sur James Bond.
Mais c'était Kim Basinger, quoi.
Oui, mais l'origine du titre, je le raconterai la semaine prochaine.
D'accord, ok. Bon, tu fais une spéciale James Bond la semaine prochaine.
Ouais, je pense, oui, peut-être si j'ai le temps d'aller voir le film, ou la semaine suivante, on verra.
D'accord.
Recoupure musicale, Joy, High Time.
Une recoupure.
Recoupure, radio éphémère.
Vas-y.
12h48. cool. Joy High Time. Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries. Allez, quand tu veux, hein.
Ok.
Tu attendais un lancement de ma part?
Non, peut-être la musique un peu moins fort, voilà. Ah, ça va mieux. Alors, autant vous le dire de suite, ça fait quand même plusieurs samedis depuis pas mal de temps que je passe devant France O. Le samedi soir, depuis, parce que avant il y avait un horaire de diffusion pour The Wire qui était un petit peu différent, c'était pendant la semaine. Là c'est le samedi soir, mais avant The Wire qui est diffusé en deuxième partie de soirée, eh bien il y a La Reina del Sur, telenovela mexicaine, mais qui a une particularité quand même, c'est de compter comme héroïne, l'héroïne principale est une femme, Kate del Castillo, donc qui interprète le rôle de Teresa Mendoza. Kate del Castillo, qu'on a vu il y a 15 jours d'ailleurs en plus comme guest star dans un épisode de CSI Miami
avec, oui quand même
ouais en face de Horatio, tu vois quoi, cool. Bon,
ça doit lui faire bizarre.
Tu regardes la nana, tu comprends tout de suite, tu dis bon c'est normal. Et par contre bon j'avais jeté un petit coup d'œil au début de la série et tout, mais enfin bon c'est vraiment de la telenovela qui est bon on va dire bon en parlant des défauts tout de suite, c'est vraiment doublé à l'amour malneux quoi, comme enfin bon tu crois que les acteurs sont pas du tout dans leur trip, enfin bon, enfin, ils font le minimum syndical, bon,
c'est
vraiment
imaginer.
Gênant.
Tu as le regard qui se tourne, tu as le visage qui se tourne vers toi et tu le vois dire maldito, mais dessus tu entends sois maudit.
Non, pratiquement, mais enfin bon, c'est un petit peu consternant de temps en temps. Par contre, l'histoire est très très intéressante, hein, c'est l'histoire donc de la reine du sud, Teresa Mendoza, dont le mec se fait choper au Mexique parce que c'est un trafiquant de dope et donc elle doit se barrer vite fait et elle se tire en Espagne et l'ensemble de l'action se déroule en Espagne et donc tous les Espagnols vont l'appeler la Mexicaine. Alors elle va commencer vachement bas tout d'abord en travaillant dans une maison de passe mais elle va réussir à s'en sortir, elle va réussir à contacter pas mal de ténors dans le trafic de drogue. On fait connaissance avec les différentes familles de mafieux, il y a les Galiciens, il y a les Russes, il y a elle bien sûr, les Mexicains, il y a les Italiens également. C'est assez rigolo comme ça. Alors c'est une série qui est une telenovela, mais avec bon bien sûr la façon de tourner telenovela, on le voit de suite, mais par contre c'est quand même assez violent, faut le dire, et on va dire le langage est assez imagé et assez ordurier quand même. Ça se laisse quand même bien regarder, hein. Il n'y a pas trop de temps mort et tout. Si samedi dernier il y avait quand même presque un épisode entier qui était un petit peu à l'eau de rose, on va dire, hein, parce que bon, il y a également des histoires d'amour, des trucs pas possibles, parce que bon, à la tête d'un réseau, mais elle arrive pas à trouver de mec valable ou les mecs qui couchent avec elle, mais juste pour la piéger. Enfin bon, des trucs assez incroyables. Mais ça se laisse quand même vachement bien regarder. Alors il y a chaque fois 3 épisodes qui sont diffusés, hein, ces épisodes qui doivent faire du 40 minutes, un truc comme ça. Et bon bah ça fonctionne pas mal. Et ensuite donc à 22h30 sur France O le samedi soir, c'est The Wire. Et là c'est la saison 5, donc la dernière saison de The Wire qui commence avec donc une thématique complètement différente. Au départ de cette série, on a pu croire que c'était une énième série de flics qui cherche à traquer des gangsters, des trafiquants, des criminels, enfin bon, le lot habituel, on va dire. On se rend compte au fur et à mesure des saisons que c'est plus une analyse d'une partie de la société à l'intérieur d'une société complète, en l'occurrence là, s'il s'agit de la ville de Baltimore, ce qui fait que dans la première saison, eh bien, on voit surtout ce qui se passe au niveau des gangs, au niveau de la rue, au niveau des trafiquants de dope et tout ça, mais dans les quartiers déshérités. Dans la seconde saison, eh bien là, on fait une connaissance avec les milieux portuaires de Baltimore et toutes les petites magouilles qu'il peut y avoir, la douane et tout ça. Dans la saison 3, on s'intéresse plus aux politique d'une ville, à savoir l'élection du maire et tout, qui débouche avec l'élection du nouveau maire qui va changer pas mal de choses. Et dans la saison 4, eh bien, comme l'équipe qui est l'équipe noyau dur d'enquêteurs qui est là depuis la première saison, mais qui se fait dispatcher au fur et à mesure des saisons dans différents services parce que ben leur unité est carrément dissoute parce que leurs enquêtes bon sont terminées. Enfin bon, il y a aussi des dimensions politiques à l'intérieur de la police qui rentrent en jeu. C'est vachement finement bien décrit. Hein, Band of the Wire est quand même une des meilleures séries sur les flics qui existent. Et dans la saison 5, dernière saison, eh bien notre groupe de pouvoir, on va dire, ou de non-pouvoir dans une société, à savoir la presse. Donc ça commence ce soir à partir de 22h30, c'est sur France O de Wire, saison 5.
Je voulais mettre
5.
Le générique en fond sonore, mais j'avais complètement oublié qu'il chantait, je me souvenais juste de la ligne de basse absolument fabuleuse.
Ouais, mais
on se la met une petite minute.
Ouais, c'est parce qu'il a été modifié dans la,
oui,
à partir de la saison 3 et de la saison 4, il est chanté, quoi, alors qu'avant il n'était pas chanté.
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil. Sing about Jesus' mighty soul, and they seal you with their wings. Keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation.
Donc The Wire saison 5, les deux premiers épisodes. Alors chaque saison compte très peu d'épisodes, 10 épisodes par saison.
Ouais,
donc,
et François le diffuse sous le nom Sur écoute.
Non, oui, non, mais c'est la traduction depuis le départ, hein, de toute façon, quoi, sur écoute. Parce que bah, la saison 1, c'est ça, hein, c'est surtout des histoires d'écoute et de choses comme ça. Sinon, ce soir, il y a également sur Ciné Plus Classique L'homme du clan, un Terence Young de 74. Alors là, le bonhomme était déjà assez vieux, assez fatigué, on va dire. Ça n'empêche pas de faire un excellent, c'est pas vraiment un western parce que c'est contemporain, c'est une histoire de Ku Klux Klan dans le sud des États-Unis où O.J. Simpson, en tant que Black, bah, il va se faire filer un coup de main par des blancs qui sont pas d'accord, genre Lee Marvin, tu vois. Alors quand t'as Lee Marvin à tes côtés, ça aide, on va dire. Bon, déjà quand t'es O.J. Simpson, ça aide aussi un peu, on va dire. Mais ça peut être assez intéressant. C'est assez violent quand même. Terence Young, vous savez quand même qui c'est. C'est quand même le monsieur qui nous a fait les trois premiers
James Bond.
James Bond, tout à fait. Et Dr. No en 62, alors que l'année précédente, il avait commis, on va dire, un péplum, Horace et les Curias, en Italie.
Ça m'épatera toujours comment sont choisis les réalisateurs.
Alors, Dr. No, alors il a fait ensuite From Russia with Love, Bon Baiser de Russie, et Thunderball en 65. Il a également fait Triple Cross l'année suivante, en 66, avec Christopher Plummer. Il a également fait Meyerling et Soleil Rouge. Rappelez-vous ce western karaté.
Toshiro
Mifune. Delon, Charles Bronson, carrément nickel.
Le truc improbable, mais génial.
Ouais, mais qui fonctionne quand même.
Ah
donc,
oui,
tout
génial.
Tout ça, c'est Terence Young. Donc, l'homme du clan, donc c'est ce soir sur Ciné Plus Classique à 20h45. Et sinon, on prépare la zik. Ouais, on est vachement musical aujourd'hui. Sur Ciné Plus Star, Nashville Lady, Michael Apted de 81, l'histoire de Loretta Lynn, interprétée par Sissy Spacek avec un Tommy Jones qui était encore presque poupin. Loretta Lynn, on l'écoute.
Remember when those city lights shine down, that big old moon shines on your Kentucky girl.
Alors aux États-Unis, les trois quarts des radios diffusent que de la country.
Ouais.
Ce qui fait que c'est absolument insupportable. C'est pour ça que l'iPod a super bien marché aux États-Unis et qu'il n'y a pas de fonction radio, parce qu'il n'y a rien à écouter. Mais combien de temps à votre là ? Ça fait du bien.
Eh ouais.
Oui, mais tu dis que c'est insupportable, mais si les gens là-bas, ils écoutent pas la country, pourquoi les radios passent la country ? C'est qu'il y a un public quand même.
Ah, tout à fait.
Parce qu'ils sortent pas de leur ferme.
Mais c'est peut-être pas les gens qui écoutent la country, c'est
parce
pas ceux qui achètent des iPods.
Parce qu'ici, la musique d'étrangers, on ne l'écoute pas à étrangers.
Ok, Nashville Lady, donc avec Loretta Lynn, native du Kentucky, comme elle en parle dans la chanson. Sinon, bah, vous pouvez également ce soir vous faire, pour la énième fois, mais c'est toujours aussi jouissif, Roadhouse de Roddy Harrington avec Patrick Swayze, qui fout des pains à tout le monde, Ben Gazzara et Kelly Lynch, demain soir sur les deux grosses chaînes françaises. C'est le full frontal avec les infiltrés de Scorsese sur TF1 et Benjamin Button sur France 2 de Fincher. Sinon, Arte vous propose là une soirée qui est pas mal, sympa, assez intéressante et complètement décalée, hors du temps, on va dire, pratiquement, quoi. Quoique, il y a quand même l'histoire peut-être d'un souvenir d'il y a 50 ans de la formation d'un certain groupe, mais enfin bon, c'est pas évoqué du tout.
Vu qu'il s'agit au fond de Liverpool.
Voilà,
pas très
voilà,
loin des caves.
T'as tout compris.
La bande annonce, elle passe. Hein.
Des Beatles, mais par contre la soirée est consacrée au Magical Mystery Tour. Alors Magical Mystery Tour, hein, bah, c'était en 67 et
ça avait beaucoup fumé.
Ouais, pas que, mais c'était bah, la BBC qui organisait donc une émission spéciale pour Noël et donc eh bien les Beatles qui s'étaient retirés de la scène l'année précédente, hein, en 66, avaient déclaré non, on fait plus de concert terminé, on arrête, ça nous casse trop la tête. Pour être encore présent, on va dire physiquement pour le public, bah, ils faisaient des émissions de télé, des trucs comme ça. Et là, c'est une spéciale. Donc, ils ont pris un double decker, qu'ils ont décoré façon psyché. Et ils ont sonné comme ça. Ils s'arrêtaient, ils jouaient un petit peu de musique, et des petits trucs comme ça, quoi. Bref, il y a un tollé absolument extraordinaire en Angleterre après la diffusion de ce truc. Parce que bon, bah, c'était un petit peu limite, quoi, par certains moments. Disons, il faut se rappeler également qu'à l'époque, dans les années 60, la plupart des gens, la majeure partie des gens étaient quand même très straight, surtout en Angleterre, donc il y avait un décalage qui était certain, on va dire, hein, puisque c'était quand même le flower power qui était à fond les manettes, quoi. Donc avec les Beatles, leur veste bariolée peinte, c'était un petit peu décalé.
C'était, donc il y avait dans un documentaire sur les Monty Python, il y avait un des Monty Python qui disait non mais de toute façon si les directeurs à l'époque de la BBC regardaient ce qu'il a signé et tout ça, ils auraient refusé la moitié des émissions au bout de la première diffusion.
Tout à fait.
Donc en fait, les directeurs étaient juste dans leur club, etc., en fumée, mais ne savaient pas ce qui passait réellement. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu plein d'objets filmiques délirants.
Donc demain soir, sur Arte, on propose au départ un documentaire d'une heure sur le Magical Mystery Tour. Documentaire 2012, donc de Francis Henley, donc inédit, suivi à 21h45 de la diffusion donc de cette émission Magical Mystery Tour, et à 22h40 Becoming the Beatles, un document de Chris Cowie sur le début des Beatles, c'était justement en 62, les gars. Et à 23h55, c'est la cerise sur le gâteau, le film The Ruttles Give the Modern the Cash.
Oh merde, j'ai le disque.
Le film de Eric Idle et de Gary Weiss en 78. Eric Idle, donc un des Monty Python, tu vois, hein, ça rejoint et tout. Et puis bon, on sait que il avait formé ce gag en hommage aux Beatles, avec en plus un chanteur soliste qui était black, quoi, on va dire.
Au départ, le Ruttles, c'était dans une émission de télé où il parodiait les chaînes privées locales. Et où en fait c'est le Rutlovich, un truc comme ça, donc un petit comté d'Angleterre qui a sa chaîne de télé, et il y a le groupe local The Ruttles, effectivement, ils en ont fait un film, et donc voilà, désolé.
Demain, toujours sur France 4, à 20h45, Dangereusement Vôtre. Bah ouais, on est en plein dedans, hein, de toute façon, ça va être la semaine. De John Glenn. Alors bon, il est sympa parce qu'il y a Christopher Walken dedans, et puis Grace Jones qui fait un petit peu n'importe quoi, mais bon.
Et puis John Glenn, il en a tourné de James Bond.
C'était
la période de Roger Moore.
C'est quand même le film.
Il y a même une cascade sur la Tour Eiffel dans ce film. À Paris.
Bah attends, il n'y a pas que ça, il y a aussi la chanson, justement, des. Mince, j'oublie. Le groupe, justement, ils l'ont tourné le clip dans la Tour Eiffel et tout, avec les inserts.
A View to a Kill, Durand-Durand.
Durand-Durand, voilà. Le truc est complètement. Mais en même temps, c'est assez amusant ce James Bond parce que c'est. Tu as une fausse James Bond girl, tu crois que c'est un tel, et ben non, en fait.
C'est
une grande black musculeuse.
Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il le fait en plus.
Oui.
Après Dangereusement Vôtre, demain soir sur France 4, L'Homme au pistolet d'or de Guy Hamilton, Christopher Lee, Hervé Vilches quand même, et Britt Ekland.
J'ai appris que en fait c'était un film qui était prévu de tourner avant un autre film, mais c'était en plein pendant les événements de Pol Pot au Cambodge, donc ils ont retardé en fait la production exprès pendant 2 ans à cause de ça. Et Christopher Lee a été choisi parce que c'était le cousin de l'auteur de James Bond.
Xavier a surtout appris cette semaine sur Twitter que Christopher Lee n'avait pas fait Gandalf, mais Saruman. Il s'est fait fesser dans Twitter. Parce
mais
qu'il,
c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui me suivent. Je suis faillible, moi, monsieur.
Ah, d'accord.
Il a voulu faire le malin.
Allez, on termine avec demain soir également. Ciné Plus Club, le flingueur de Michael Winner. Deux ans avant Death Wish, il nous fait déjà son petit polar musclé avec Bronson. Et un peu tout petit jeune qui allait devenir supercopter par la suite, Jan Michael Vincent. Ah ouais.
Mais il est assez glauque celui-là.
Ouais, il est un peu chaud, quoi, on va dire.
C'est pas,
je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont pris comme agent secret, entre guillemets, pilote d'hélico.
Lundi sur Arte, alors ça, c'est une programmation que je sais pas du tout, mais enfin bon, voilà, quoi, on aurait plutôt vu ce film sur TCM, tu vois, ou sur Ciné Plus Club. C'est Taza, le fils de Cochise. De Douglas Sirk avec Rock Hudson qui joue le rôle d'un indien, Rex Reason, Barbara Rush, Douglas Sirk qui en fait s'appelait Detlef Sirk et qui était danois. Donc c'est demain soir, lundi soir sur Arte à partir de 20h50. On a également sur TCM Les Wild Ones de Laszlo Benedek, c'est le film avec les motards et les blousons noirs avec Brando, Lee Marvin et tout ça. Ou alors sur FX, il y a également Highlander 2 lundi prochain.
Oh là là.
Lequel de montage?
Je sais pas, montage télé, j'en sais
non, rien. Non, mais le community manager de CinéFX, il peut nous dire quelle version, parce qu'on a compté au moins 2 ou 3, je crois, quand on avait fait la spéciale Highlander. Oui.
Mais ouais, c'est celui avec Michael Ironside qui surfe sur des frisbees volants.
Voilà, mais c'est quand le laser est bleu, vert, rouge, que l'on sait quel montage c'est. Parce qu'ils ont refait les effets spéciaux.
Ouais. Mardi, sur Canal+, cinéma, True Legend de Yen Woping avec Zhang Wenzhuo, Chun Zhu et Andy On.
Et je crois que je l'ai chroniqué.
Ah bon?
Ici.
Eh oui, peut-être. Sur 13ème rue, 20h45, encore un film de Castagne, Tolérance 03 de Tripprid. Avec Kevin Sorbo.
Kevin Sorbo, Hercule.
Et ouais.
Tolérance 03.
Andromédus, Andromeda.
C'est vraiment une bêta, alors.
Mardi, toujours sur Ciné Plus Classique, une bonne soirée de western avec tout d'abord à 20h45, La ville de la vengeance, ouais, avec Scott Brady et Anne Bancroft de Alan Dwan en 57. Alan Dwan, qui est un forçat du film, qui est là depuis le début en plus, hein, c'est un pionnier, quoi, ce mec, hein. Il est né en 1885, il a commencé à faire des films en 1909. Entre 1909 et 1913, il avait déjà tourné 400 films. Enfin, bon, les films.
Oui, bon, c'était des cours à l'époque.
C'était des cours qui faisaient une ou deux bobines, mais quand même, faut les faire. Hein, il a tourné avec, il était avec Griffith, il a connu Hawks tout jeune, il a fait des films avec Douglas Fairbanks. Et lui, par contre, le passage du muet au parlant, rien là, cool, pas de problème, je continue tranquille. Bon faiseur, il a pas fait de super films, il a pas fait un film qui a super marché, qui a connu des Oscars et tout, mais il a continué sa carrière jusque à la fin des années 50, tranquille, à faire ses 2-3 films par an au mieux, ou son film par an de toute façon. Et donc cette ville de la vengeance, c'est vraiment un bon western, on va dire, hein, qui mérite bien 2-3 étoiles, tranquille, quoi. À 22h10, Les Brutes de la ville de Robert Parrish en 71 avec Robert Shaw, Stella Stevens, Martin Landau et Telly Savalas. Et devinez qui est le plus méchant dans le lot? C'est Stella Stevens. C'est elle qui veut se venger, quoi.
C'est toi qui as le mauvais rôle. Mais...
ou alors, voilà, ou alors sur FX, et là tu pourras leur dire, hein, de toute façon, quoi. Ils nous proposent une soirée sur Blob. Alors là, c'est vraiment sympa avec tout d'abord le Blob de Chuck Russell, c'est-à-dire le plus récent de 88 avec Kevin Dillon. Et ensuite le Blob, l'original de Irvin Yeoworth en 58. Et ils ont oublié celui de 72-73 avec Steve McQueen. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est aussi une bonne version du Blob.
Il devait pas être dans les tiroirs de AB, je pense.
Mercredi, alors là, on va faire dans le cinéma un petit peu intello avec Canal Plus Cinéma qui nous fait à 20h45 Drive de.
Cinéma intello. Nicolas Winning Refn.
suivi à 22h20 d'un documentaire qui suit les tournages et la fin du tournage et les emmerdes de Nicolas Winding Refn pendant la trilogie Pusher.
Ah oui.
Un truc qui date de 2006, donc à l'époque où il terminait sa trilogie Pusher, et donc les emmerdes qu'il a eu à tourner ses films, les moyens financiers et tout le bordel. Donc dans ce documentaire à 22h20 qui suit le film Drive, sinon avant France 4, mercredi prochain, vous propose à 20h45 Moonraker de Lewis Gilbert en 78. Ouais.
Alors, le plus mauvais.
Celui qui a fait
en livre de Sterling Constante le plus mauvais score au box office.
Alors celui-là aussi, il a été tourné en Paris, en grande partie à Paris. Mais en plus, à l'époque, c'était plus pour des raisons d'évasion fiscale, parce que c'était coûtait moins cher de tourner à Paris.
C'était l'époque
que de tourner
où
en Angleterre.
Ça a changé depuis.
Non, mais c'est l'époque où E.ON n'était pas très bien financièrement, donc c'est.
Et donc ils avaient embauché des acteurs du cru, dont Michael Lansdale dans le rôle du méchant. Bon, ça se comprend, mais également Corinne Clery. Et qui était Corinne Clery à l'époque? Bah oui, vous êtes trop jeune. Bah c'était elle qui tenait le rôle titre dans Histoire d'eau, le film. Ouais, c'est pour ça qu'on la connaissait à l'époque. Donc à Moonraker, mercredi prochain à 20h45, suivi à 22h50, Les Bonnes Girls sont éternelles, un documentaire assez vieux, hein, qui a 10 ans, de John Watkins, mais qui est quand même vachement bien, quoi. Et à 23h55, L'Histoire Secrète de James Bond, de Sean Riley en 2012, documentaire inédit, mais là qui raconte l'histoire du vrai James Bond, c'est-à-dire un espion qui a réellement existé. Ou sinon sur...
Non, le vrai James Bond, celui qui portait le nom de James Bond, était un anthropologue.
Oui, non, mais bon. Sinon sur Jimmy, mercredi prochain, ça c'est pas mal, c'est sympa de la part de Canal+, de refiler ces séries relativement récentes pour les rediffuser sur Jimmy. Là, il s'agit de Luther,
série
avec Idris Elba, dont je vous avais annoncé la diffusion sur Canal+, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et là elle bascule sur Jimmy, rediffusion donc mercredi prochain à partir de 20h45 avec deux épisodes. Alors c'est des saisons qui comportent que 6 épisodes, mais bon, Idris Elba, ça le fait quand même, c'est en Angleterre en plus, avec un casting tout à fait solide, il y a également Warren Brown, d'autres gens comme ça, bref, et puis bon, depuis qu'il s'est fait dégommer dans The Wire, il a plus rien à foutre à Baltimore, donc il peut très bien aller faire le flic en Angleterre. Donc c'est mercredi prochain, si vous aimez pas trop ce genre de trip, vous pouvez vous faire un bon petit film sur Ciné Plus Premier, qui casse, bon, un bon petit film quoi. Jeudi, on a sur Paris Première Eldorado de Howard Hawks en 67 avec John Wayne, Robert Mitchum, James Caan. Bien, hein, il fait des remakes de ses propres films, mais ça marche quand même vachement bien, donc ça vaut le coup. Sinon, sur Ciné Plus Frisson, on a Traqué de William Friedkin en 2002 avec Tommy Lee Jones, Benicio del Toro, Connie Nielsen et John Finn. John Finn qui est le patron de Lily Rush dans Cold Case, voyons. Allons. Vendredi sur Canal+, 20h55, là les enfants seront devant leur télé pour regarder Tintin, le secret de la licorne de Steven Spielberg, qui est pas mal, qui est vraiment bien.
Ça passe sur quelle chaîne ?
Sur Canal+, à partir de vendredi prochain. Mais enfin, okay. On va voir ce que ça donne sur petit écran, quoi. C'est peut-être ça l'inconnu. Sinon, Histoire de pisser de rire sur RTL9 vendredi prochain à 20h45. Hot Shots 2 de Jim Abrams. Bon, il est pas aussi bon que le 1, mais il y a quand même des trucs qui sont vraiment bien dans le 2. Charlie Sheen, Richard Crenna, Lloyd Bridges, Rowan Atkinson, qui à l'époque était pas tellement connu, on va dire.
Et à l'époque, le film se faisait un point d'honneur de battre le record du nombre de morts à l'écran.
Ah.
Je sais pas si vous vous souvenez de ce gag.
Ouais, bon, vendredi toujours.
Surtout dans la maison de de Saddam Hussein à la fin.
Non, mais il n'y a pas que ça, parce qu'au bout d'un moment, tu vois l'huissier de la Guinness. Le décompte avec les milestones. Ah, Rambo 3.
Vendredi toujours. Alors, Hot Shots 2, c'est sur RTL9, hein, vendredi prochain. Sinon, sur TF6, Opération Eagle One, une histoire d'extraterrestres et tout. Mais Marc Dacascos est là, et puis il n'y a pas de problème, donc ça va le faire. Et en plus, comme il y a Rutger Hauer en plus, quoi, tu te dis que ça va bien se passer quand même. Ciné Plus Frisson vous diffuse à 22h15 vendredi prochain Cellule 211 de Daniel Monzon, excellent film de prison avec Carlos Bardem, le frère de l'autre, Luis Tosar, qui était à Toulouse là il y a 15 jours là pour Ciné España. Il y a Alberto Amann et tout dans cet excellent film de prison, j'en dis pas plus, hein, mais ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est sur Ciné Plus Frisson, vendredi prochain, 22h15. Ciné Plus Star vous diffuse une soirée spéciale Sean Connery, mais pas de James Bond, avec tout d'abord La Maison Russie à 20h45 de Fred Chappie.
Excellent.
Bon,
non, c'est
suivre.
Une bonne adaptation de John Le Carré. C'est
faut
un
suivre,
polar.
Voilà, c'est ça. Ouais,
mais
ouais.
Très bien. Franchement, très bien adapté.
D'accord. Ok. Sean Connery, Michel Pfeiffer, Klaus Maria Brandauer. Enfin bon, casting d'acier. Hein, y a pas de problème. Mais bon, voilà.
Casting d'acier. Je
préfère dans le genre avec Sean Connery.
Casting d'acier.
Je préfère dans le genre le film qui suit Zardoz de John Boorman.
Ah, le slip.
Sean Connery en couche culotte. Charlotte Rampling à poil dans sa meilleure époque, ça vaut vraiment le coup. Et puis bon, une histoire vraiment porte-nawak, vraiment du porte-nawak.
Il l'a dit en interview quand le film était sorti, de toute façon si après ça on me propose un James Bond jamais plus jamais. Bah ouais, loupé.
Donc Zardoz, vendredi prochain, sur Polar, meurtre par décret de Ben Clark en 79. Alors ça c'est une adaptation de Sherlock Holmes que je connaissais pas, avec Christopher Plummer dans le rôle de Sherlock Holmes et James Mason dans le rôle de Watson. Pff, pas mal quoi, plus David Hemmings. Donc vendredi prochain sur Polar à partir de 21h, et je termine avec sur Action Western, mais enfin bon, c'est vraiment pour rigoler un bon coup. Texas, nous voilà, de Mitchell Gordon avec Alain Delon, Dean Martin, Rosemary Frostheit, tout ça dans le même film. Et c'est pour la bonne bouche que je vous donne ça, quoi. Y a pas de problème.
Merci Dus. Ma foi, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission puisque Sushi arrive et nous pressant en nous disant allez hop, à la porte, à la porte. Ouais. Tu me laisses faire le générique d'abord parce qu'il est même pas 13h20 sur la poubelle des radios et ma foi.
Mais
Thomas,
moi j'ai rien dit. Hein.
Non, mais ça s'appelle la scénarisation et tout, tu vois, parce que Thomas disait ça manquait de bordel dans Super en week-end. Donc on essaie d'en remettre. Est-ce que t'as osé faire le résumé?
Oui, j'ai osé, bien sûr. Aujourd'hui, nous avions un double serpent qui fait caca, des cartes à gratter, un capet de cruzade, un livre à retourner, de la recupure musicale, de la musique de ferme, du blob, du film Intello avec un blouson de bowling, de la prog 007, un record de mort, de la couche culotte, une charlotte à poil et un western pour la bonne bouche.
Mon dieu. Non, d'un sacré coup de tabac flashé à 125 km/h sur la rocade, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, relire nos chroniques écrites, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, c'est simple comme facile, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. Ouais, allez, un petit peu vite, tu vois, mine de rien.
Ouais, le résumé était léger aujourd'hui.
Ouais, mais n'empêche, après, on aura trois trucs qui vont être bien lourds. Ce sera quoi? À partir du 17 novembre. En attendant, vous écoutez FMR sur 89.1. Je suis parti à l'envers, je suis désolé. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et en diffusion continue 24-24, 7 jours sur 7 sur www.radio-fmr.net. La semaine prochaine, ouais, peut-être Bond. Peut-être. Tu viendrais, tu ferais la Bond girl.
Ouais.
Attends, prends dans le micro, vas-y.
Je viendrai avec plaisir.
En Bond girl, waouh.
Ça faut après voir les appareils photo, là.
Maintenant, il va falloir surtout trouver l'orchestre philharmonique qui va accompagner le truc de pop, tu vois, pour les souligner avec des trompettes, des cordes, tout ça. Enfin, voilà. Du sport de Switch au bye bye, rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre soutien, de votre écoute et de la bonne humeur que vous nous permettez de nous offrir chaque semaine. Ciao, bye bye.